Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cindy Janon a fait un jour ce qu'on se dit parfois qu'on ferait et qu'on n'a pas toujours le courage de faire. Tout plaquer et vivre une nouvelle vie, plus en accord avec ses inspirations intérieures. Elle a quitté les hommes qui font tant de bruit pour retrouver la force vive des éléments. Et quoi de mieux que l'Islande et la Norvège pour s'imprégner longuement de la mer, du vent, de la pluie et de la terre. Cindy, emmène-nous avec toi dans ton univers.
Alors, on est dans ma nouvelle maison. J'y habite depuis un mois. C'est un petit chalet en bois qui surplombe une petite butte. Du coup, j'ai la lumière toute la journée, je vois les montagnes. Alors, ça me fait un peu bizarre parce que je vois aussi les lumières lointaines de la ville. Et c'est la première fois depuis 10 ans que j'habite aussi près de la ville. Mais bon, voilà.
La première fois depuis 10 ans. Donc, on va s'intéresser un peu à toi, à ton parcours. À Cindy, finalement. Qui est Cindy? Si tu devais te présenter en quelques mots.
Qui suis-je? Alors, je suis photographe. Je suis devenue photographe. J'ai 38 ans. Ma vie professionnelle a eu pas mal de revirements de situation. J'ai travaillé 7 ans en informatique. Et puis, vu que ça ne me convenait pas, j'ai tout laissé tomber et j'ai fait la formation d'éco-interprète. C'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une éco-interprète? Elle sensibilise à la nature par une démarche un peu plus émotive, artistique. Et puis après, j'étais dans cette voie-là. Mais vu que j'aime bien toujours plus et toujours plus loin, j'ai pas trouvé exactement ce qui me parlait. Et un jour, je suis allée vivre avec des bergers pendant 15 jours. Et j'ai à nouveau tout quitté. Je me suis dit non, mais je vais pas sensibiliser à la nature sans connaître mon lien profond avec la nature. Ça a été vraiment ce questionnement-là qui a fait que j'ai tout quitté. Je suis venue dans les Vosges en plein hiver et j'ai commencé cette démarche d'immersion dans la nature. Assez rapidement, je suis partie en Laponie, Norvège et puis Islande avec des temps de voyage de plus en plus longs. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et je dis toujours que c'était le début d'une métamorphose.
On va en parler de tes voyages, mais tu utilises un terme qui m'interpelle, une immersion dans la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une immersion dans la nature?
Alors, qu'est-ce qu'une immersion dans la nature? Bonne question, comment la définir? Moi, je me sens en immersion, d'ailleurs pas que dans la nature, à partir du moment où je vais me déshabiller de tout. De tous mes principes, de toutes mes idées. Et je me laisse pénétrer par tout ce qui m'environne. Donc en fait, c'est comme si je devenais ma propre expérience. Et je me mets dans un lieu et la nature, quelque part, me pénètre et me dévoile qui elle est et qui je suis finalement.
Comment tu vas choisir ton lieu d'immersion?
Alors, j'ai choisi les Vosges. Pour la bonne raison que je ne suis pas une montagnarde et que je ne voulais pas me tuer dès la première fois. Et du coup, j'ai choisi des petites montagnes. Donc les Vosges, l'Auvergne et le Jura, c'était ce que je visais. Et puis le hasard a fait que ce fut les Vosges. Et ça a commencé en hiver, ce qui est bien parce que les gens, ils n'aiment pas le mauvais temps, ils n'aiment pas le froid. Du coup, j'ai pu me retrouver seule en hiver dans les Vosges.
Oui, mais quand tu dis seule, là, tu es quand même dans une maison. Ou quel type d'habitat tu choisis pour une immersion?
Alors en fait, quand je parle d'immersion, je parle plutôt des bivouacs que j'ai réalisés toute seule pendant d'abord 2 jours, puis après 4 jours, puis après un peu plus longtemps. Et la première année, j'ai déménagé 8 fois. J'ai habité 8 habitats différents, toujours des habitats très précaires, si on peut dire, qui me donnait pas de chaîne. Et puis dans des villages où j'habitais un village où par exemple les routes n'étaient pas déneigées, où je traversais un petit bois pour rentrer, où j'avais pas d'internet, pas de téléphone, et juste un poêle à bois pour me réchauffer. Et cette maison en plus le toit n'était pas encore isolé. Voilà, j'ai habité assez régulièrement dans des lieux où il y avait vraiment le strict nécessaire. Et j'ai toujours habité dans des endroits très très proches de la nature.
Mais là, la démarche, c'était déjà de faire des images ou pas du tout? C'était vraiment te couper du monde, te découvrir toi? Ou pourquoi avoir voulu s'isoler comme tu l'as fait?
Alors en fait, c'est vrai que je fais de la photo pour exprimer ma démarche et pas l'inverse. Et il n'y a pas que la photo, il y a aussi l'écriture. Et en fait, je ne sais pas l'expliquer, c'est vital. C'était nécessaire, il fallait que je le fasse, il fallait que je découvre... ce qu'était réellement la nature, ce qui j'étais réellement, et mon rapport à la société, aux autres. C'était une quête de la vérité, une quête...
Cindy Janon, on est là maintenant chez toi, dans les Vosges. On parlait juste avant, hors micro, de conférences que tu as données récemment sur un festival. Qu'est-ce que tu racontes dans tes conférences?
Alors, ça dépend, mais cette année... Après mon voyage de 3 mois en Islande, j'ai voulu retracer mes 7 années de démarche. Parce que tout le monde ne sait pas de quoi je suis partie, même si je le répète quand même en début de conférence. Mais j'ai voulu retracer vraiment l'origine, la genèse du projet, mais c'est même pas un projet, c'est... ou alors un projet de vie. Et donc du coup, j'ai replongé dans des photos de 2009, mes premières images. Et là, j'ai ressorti des photos de terrain et aussi ce que j'appelle mes rêves que j'ai testés pour qu'ils deviennent réalité. Et alors du coup, je suis passée de la grande utopie, bon, que j'ai toujours, hein, évidemment, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, j'expliquais tout ça aux gens. Et dans mes conférences, en fait, quand je monte mes images, je ne vais pas parler des images. Je vais parler de l'ambiance sonore. Je vais parler du froid que je ressens. Je parle de mes ressentis, qu'ils soient sonores, physiques, même au niveau de ce que je mange. Et les gens, comme ça, vivent cette immersion avec moi.
Ça, c'est bien, ça me va bien, parce qu'en radio, t'as pas la dimension visuelle et tu es vachement dans le ressenti, dans l'écoute. Donc, emmène-nous dans un lieu que tu aimes bien, un pays, et parle-nous d'une journée. Retransmets-nous un petit peu ces ressentis intérieurs dans un lieu qui t'a marqué. Peut-être sur le dernier voyage où tu as passé 3 mois en Islande ou autre chose, comme tu veux. Libre, emmène-nous avec toi.
C'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas préparé, évidemment. Alors, si on avait préparé, je me serais demandé quelle journée je choisis, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Alors, je vais prendre le dernier voyage. Et là, comme tu me poses la question, et vu que je suis vraiment tombée amoureuse du glacier, ça va être une journée près du glacier, près du Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe, enfin le deuxième plus grand glacier d'Europe. Cette immersion-là, cette année, elle a été très marquée le premier mois par un cycle de tempêtes incroyable. Ça a été l'été le plus catastrophique depuis 40 ans.
Donc juste pour qu'on s'imagine bien, quand tu parles d'immersion, donc là tu es seule avec ton camion, tu pars en Islande, donc tu quittes la France, tu montes tout au nord jusqu'au Danemark, tu prends un bateau, tu fais 3 jours de traversée, tu arrives avec ton camion en Islande, et là maintenant, il est question de vivre cette immersion, c'est ça. Donc tu nous emmènes avec ton nouvel amoureux, le glacier. Vas-y, à toi.
C'est ça. Alors, je me souviens d'une journée particulière parce que elle a donné naissance à cette photo que j'appelle Apocalypse. Où c'est une photo où les gens me disent, on dirait un dessin en fusain. Et cette photo, je ne l'ai pas travaillée, elle est comme ça. Et en fait, il faut s'imaginer, l'Islande, c'est vraiment la terre des énergies, notamment du vent. Moi, je suis fascinée par le vent, les nuages. Depuis le tout début, on regarde mes premières images, ça parle toujours de nuages. Et donc du coup, je suis restée dans cette tempête et ces inondations, enfin très 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 fortes. Et donc ce jour-là, je m'approche d'une langue glaciaire et le vent est vraiment terrible. Je m'approche au plus près et je me sens à la fois en danger mais en même temps fascinée. Alors il faut garder la tête froide et se demander à partir de quel moment on s'en va parce qu'on a envie de rester, parce qu'on est fasciné. C'est hypnotique en fait. C'est un peu comme le chant d'une sirène. Et je reste là et j'observe ce glacier. Alors cette langue glaciaire, on la voyait à peine parce qu'il y avait tellement de vent que ça balayait tout le sable noir qu'il y avait aux alentours. Et puis ça fouette aussi le lagon. Chaque langue glaciaire se termine par un lagon, ou pratiquement. Et ce lagon-là est couleur confiture de lait. Et du coup, tout était balayé et ça donne des images mais incroyables. Et on a l'impression d'être dans un autre monde.
Mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es seul face à cette langue glaciaire? Pourquoi se mettre dans cette situation, dans ce contexte-là, alors que tu pourrais être, je sais pas, ailleurs, au chaud, en train de regarder les infos aux 20h?
Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai décrit avant, quoi, cette fameuse expérience. C'est comme si je devenais comme un chercheur scientifique, ou je sais pas trop. L'expérience que je mène, c'est mon corps. Enfin, c'est comme s'il y avait parfois une duplication de personne. Et je vais plonger cette personne et écrire sur ce qu'elle ressent et analyser un petit peu les choses. Et je trouve ça fascinant parce que ça nous délivre plein de choses sur la nature, sur nous. Et puis finalement, à force de faire ce parallèle, les caractères de la nature, on les porte en nous. Et moi, plus que jamais, j'ai du mal de parler de la nature, parce que la nature, c'est nous. Enfin, la nature et nous, c'est la même chose. Et voilà, je trouve ça fascinant. Et pour décrire, j'ai lu un auteur assez régulièrement durant les tempêtes, c'est Jón Kalman Stefánsson, un auteur islandais, qui est traduit par Eric Bourri, avec qui je suis en contact. Très belle écriture. Et j'aime beaucoup ce livre, enfin, ces livres, parce qu'en fait, il parle des éléments d'Islande et notamment des tempêtes. Et j'ai eu des nuits où j'étais terrorisée tellement c'était violent. Où pour la première fois, alors j'ai connu quand même des vents forts en Norvège et en Islande l'an passé, mais cela était tellement violent que je parlais du diable qui tapait à ma porte pour me réveiller en pleine nuit. Et pour me calmer parfois, je lisais cette écriture poétique de Jón Kalman Stefánsson. À un moment donné, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup parlé, je ne sais plus avec quel mot exactement, mais il parle sans cesse de la terreur et la fascination qui se mêlent. Je ressens exactement la même chose.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quand je t'écoute parler, quand je t'imagine, quand je te visualise là, seul, au milieu des éléments, avec le vent, avec la pluie, avec cette tempête dont tu parles, avec cette envie d'être le plus proche possible des éléments et de la nature, ça me fait penser à ce film Into the Wild, que tu as sûrement vu. Et dans ce film, il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était à la fin, tu as, je sais plus comment il s'appelle, Alexandre Supertramp, je crois, qui écrit « Happiness is real if share », le bonheur est réel si partagé. Comment tu vis ta solitude? Est-ce que tu la vis bien? Est-ce que tu aurais envie d'être accompagné? Est-ce que c'est un choix de vivre ces instants qui peuvent être très forts, seul?
Alors, je trouve que non seulement c'est une très bonne question, mais je suis épatée. Alors, Into the Wild, on m'en parle souvent. Quand il est sorti, mes amis m'ont dit « il faut absolument que tu ailles voir ce film ». On me l'a ensuite offert en DVD, en livre. Et en fait, ce film m'a tellement touchée que pour l'instant, je n'ai pu le voir qu'une seule fois. Il m'a touchée pas pour ce qu'on imagine, pas pour justement l'expérience dans la nature, mais plus par rapport à ses choix de vie et son parcours familial. Parce qu'il y a énormément de correspondances. Et Et cette phrase, moi aussi, elle m'a marquée. Je l'ai écrite, fait partie des phrases que j'ai écrites dans mon livret. Parce que je suis aussi dans cette conclusion-là. Depuis quelques temps, là j'en suis à 7 années d'immersion que j'ai pas toujours vécue seule. J'ai partagé certaines immersions avec d'autres photographes. Mais c'est quelque chose c'est une expérience qui est intéressante à vivre seule parce qu'on se découvre soi-même et on peut, en étant seule, savoir ce qui nous appartient, ce qui émane de nous, sans être en interaction avec un autre ou des autres. Aujourd'hui, ma connexion avec la nature est tellement fusionnelle, j'ai l'impression d'avoir atteint une connexion que j'aurais même pas pensé cette année. Que je le ressens de plus en plus aujourd'hui, le partage, non seulement j'en ai envie, mais en plus il n'altère plus mes ressentis sur place, puisque j'ai dépassé ce stade-là. Donc aujourd'hui je serai à la recherche de projets communs et d'immersions partagées.
Je reviens à l'Islande, si tu devais me la décrire avec des adjectifs qualificatifs, des émotions, des sentiments, ce serait quoi ? Parle-moi de l'Islande comme une amoureuse, ou comme un amoureux.
Justement, en conférence, j'ai fait comme différents chapitres, et quand je parle de l'Islande, je parle vraiment terre des énergies et de transformation. Et c'est un lieu où toutes les énergies sont combinées. Évidemment, il y a la force du feu avec les volcans. T'as donc l'origine de la vie, quoi, souterraine. Les glaciers, des vents en furie, les montagnes, l'océan. Et en plus, t'as ce qui arrive du ciel, quoi, les aurores boréales. C'est comme si toutes les énergies étaient rassemblées en un point. Ça donne une force et une poésie extrême. Et c'est ce que je recherche, la force et la poésie combinées.
Tu viens d'y passer 3 mois. Comment est-ce que tu définis le temps passé là-bas ? Est-ce que tu sais combien de temps tu vas rester quand tu pars ? Comment tu prépares ton expédition ? Comment est-ce que tout ça s'organise ?
Alors, pour l'Islande, c'est particulier parce qu'il y a le bateau. Donc, le bateau fait que je suis obligée d'avoir des dates de départ et de retour. Le bateau, on ne peut pas le prendre la veille, donc ça demande un petit peu d'anticipation. Mais à part ça, donc cette année, j'ai choisi d'y aller 3 mois, l'an passé, 9 semaines. Et une fois que je suis là-bas, par contre, je ne me donne pas de contraintes de date par rapport au lieu. Cette année, en 3 mois, j'ai voulu faire seulement une partie de l'Islande parce que j'ai vraiment une philosophie d'étirer le temps. Et il y a des lieux où je me dis, tiens, là, je vais y rester 1 heure. J'arrive et puis finalement, 2 jours plus tard, j'y suis encore. Et puis, ça m'est arrivé aussi de me dire, bon bah tiens, là j'y passe parce que je le connais déjà et puis ça sert à rien, je reste trop longtemps. Puis j'y suis restée 9 jours cette année. Enfin, j'ai un endroit en tête. Donc voilà, c'est vraiment, c'est génial, c'est l'interaction avec les énergies du lieu. Soit elle t'attrape ou soit elle te laisse partir.
Et cette notion du temps que tu évoques, que j'aime beaucoup aussi, qu'est-ce que c'est que le temps pour toi ? Comment tu le définirais ?
Alors, j'ai écrit un petit texte sur le temps où je dis qu'en immersion, il n'y a plus de temps humain. Il n'y a plus les horloges. Il n'y a plus les jours. D'ailleurs, quand on me parle de... quand je croise des gens, qu'on me dit bah, « on est mercredi », mais mercredi, ça veut dire quoi ? J'arrive plus du tout à me mettre dans cette logique-là. Pour moi, le temps, c'est le temps du jour et de la nuit. C'est le temps d'une respiration de pluie, de brume, le temps qu'elle passe. C'est le temps des saisons. Le temps, c'est ça réellement.
On va passer ensemble une journée avec toi. Donc j'aimerais que tu me la racontes, comment ça se passe le matin. Qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton quotidien ? À quelle heure tu te réveilles ? Est-ce que tu vas te faire un thé ? Est-ce que tu vas te balader ? Une journée type.
Ça me fait rire parce que... mes amis qui vont entendre le matin vont sourire. Alors, je suis pas du matin du tout. Alors, le matin n'existe quasiment plus parce que je vis la nuit. Et notamment, là, avec les... je suis fascinée par la nuit. C'est très envoûtant et J'adore l'ambiance nocturne. Et en plus, vu que je suis fascinée aussi des danses du ciel, des aurores, eh bien, je crois que j'ai conditionné mon corps à vivre la nuit. Donc du coup, je me couche très très tard, même encore aujourd'hui, parce que mon inspiration principale, c'est la nuit. Donc ça peut être, pour moi, me coucher tôt, c'est 1h du matin. Ça peut aller jusqu'à 6h du matin quand je suis sur le terrain, pour attendre vraiment les dernières aurores, mais bon, 6h, c'est un peu extrême. Et puis après, je vais dormir, donc t'imagines bien que je me lève du coup très tard. J'ai besoin de dormir parce que en plus, l'immersion c'est physique parce que j'ai pas de chauffage dans mon camion. Alors résister au froid et puis réfléchir tout le temps et puis ressentir les choses. Enfin, c'est quand même on a besoin de dormir. Puis on a besoin d'espace pour dormir, pour fabriquer des rêves parce que sans rêve on fabrique pas de photos. Alors voilà. Et puis quand je me lève, effectivement, il y a des petits rituels. Le thé en fait partie. En voyage, j'ai un petit bol en céramique que m'a fabriqué une amie. J'ai du très bon thé parce que j'adore le thé. Faire chauffer l'eau, l'avoir en ébullition, surtout en Islande, voilà, cette terre où il y a plein de volcans. C'est magique, quoi. Et du coup, prendre le temps de ce thé, ça c'est très important. Et après, ma journée, elle va se décider en fonction de comment s'est passée la nuit, des lumières, du lieu. Je dis toujours, c'est pas... Je décide, mais c'est pas moi qui décide vraiment, c'est ce que m'apporte le ciel.
Au début, tu te définissais comme photographe. Donc, dans ton immersion, dans ton voyage, dans tes voyages, quelle est la place de la photographie ?
Eh bien, elle reste tout le temps avec moi. C'est-à-dire que rares sont les moments où je me défais de mon appareil photo. Je l'ai appelé cette année dans mon écriture l'attrape-rêve. Et puis, je dis souvent que c'est la prolongation de ma main. C'est finalement une photo. C'est la nature et moi qui la fabriquons, puis cet outil qui nous permet de la fabriquer. Alors, quand je me déplace, je l'ai sur moi. Dans mon camion, quand je rentre de nuit, je décharge mes cartes mémoire. Donc, des fois, je m'endors à côté de mon appareil photo. Il est tout le temps avec moi, en fait.
Mais tu passes plus de temps dans ton camion ou plus de temps à l'extérieur pour te balader ?
Me balader.
Ou explorer. Ou ouais, tiens, d'ailleurs, quel mot utiliseras-tu ?
Ah, explorer, ça me va bien. Ça dépend. Je passe beaucoup de temps dans mon camion déjà pour dormir. Bon, quelquefois, c'est sous tente aussi. Mais en Islande, c'est plutôt rare. Et puis, je vais faire attention si jamais il y a des tempêtes pas possibles, des pluies torrentielles. C'est physiquement pas possible de sortir. Donc, je vais étudier mon endroit de bivouac et je vais faire attention à où je suis. Et puis, la vue que je vais avoir.
Ton parcours est intéressant, tu parlais de 7 ans dans l'informatique, après une formation d'éco-interprète, pour te retrouver aujourd'hui être une voyageuse qui aime vivre l'immersion, l'exploration. Comment tu expliques tout ça ? Est-ce que tu étais dans ton enfance préparée à vivre la vie que tu t'es choisie aujourd'hui ?
Alors, bonne question. Je crois qu'on me l'a rarement posée, mais moi je me la suis posée en tout cas. Et je sais pas répondre. En tout cas, je n'ai pas une enfance, une adolescence qui amène à ça. Et d'ailleurs, je me souviens pour la première fois en conférence cette année, dans mon cycle de conférences, dans une seule conférence, parce que j'en avais parlé la veille à un ami, j'ai quand même dit que j'avais vécu mon enfance en HLM dans un premier temps, jusqu'à, je ne me souviens plus trop quel âge, bien 8 ans. Et ensuite, dans une maison, mais sur les hauts d'une ville. Et puis ensuite, quand j'ai quitté le foyer familial de mes parents à 19 ans, j'ai quand même vécu 8 ans encore en HLM. Mais par contre, j'ai toujours eu un lien très fort avec la nature. J'allais me balader seule en forêt. Et puis aussi, j'ai eu des grands-parents qui étaient agriculteurs. Et on allait récolter des framboises, on allait au bois, on allait faire du feu, on allait au champ. À cette époque-là, l'agriculteur faisait un peu tout. Et je pense que ça m'a donné aussi une connexion très forte à la vie simple, la sobriété. Et puis ce rapport à l'effort, ce rapport à prendre conscience de ce qui nous nourrit, de ce qui nous réchauffe. Et après les gens me disent « Oui, mais bon, comment t'en arrives à ça ?» Alors je dirais que ça doit être dans mes traits de caractère. Je ne sais pas s'ils sont génétiques ou tombés du ciel. Mais il y en a deux qui me poussent vers ça, c'est la curiosité qui... Voilà, c'est un appétit de plus en plus fort et aussi la tête de l'art. Je suis très têtue. Ah, du coup, je garde mon idée en tête et puis je vais jusqu'au bout, jusqu'à temps de voir ce que ça donne.
On parlait avant de cycle. Là, tu es en train d'en boucler un cycle de 7 ans. Donc, qu'est-ce que tu en retiens de ces 7 années passées et vers quoi maintenant tu aimerais pouvoir te diriger ?
Alors, c'est vrai qu'en plus, j'adore le chiffre 7. Les 7 et les 9, il y en a plein dans ma date de naissance. Et puis c'est vrai que j'avais toujours dit, avant de tirer une conclusion de quelque chose ou d'aller vers la fin d'un projet, il faudra bien au moins 10 ans. Et puis cette année, je ressens vraiment qu'il y a un aboutissement à quelque chose. Donc ça fait 7 ans. Du coup, ça me plaît bien que le cycle soit de 7 ans. En conférence, là, en fin de conférence, je montre une image. C'est un autoportrait avec une superposition d'aurore boréale. Et je dis aux gens, voilà, la métamorphose est faite. Alors, j'explique pas tout ce qu'il y a derrière. Je vais l'expliquer dans les mois à venir, les années à venir, peut-être. Mais il est vrai que dans mes envies de projet et dans mes choix de vie, ça va me donner... Ça me donne envie d'autre chose, à la fois d'autre chose, mais en continuité. C'est-à-dire que ce que j'ai acquis là, je vais le garder en moi. Et puis, mais par contre, effectivement, tu l'as bien compris, j'ai envie de projets partagés.
Terminé, autour de toi, beaucoup de livres, un peu partout, sur les étagères, sur la table, sur les chaises. Si tu devais en choisir un que tu aimes bien, que tu aurais envie de partager avec nous, celui qui écoute, là, avec toi, auditeur, celui qui écoute cette émission, quel bouquin t'a marqué ou te marque, ou quel bouquin te plaît ou te parle ?
Ah, ça y est, je vois. Là-bas. Il suffit d'y croire, de Laurence Hinck. Alors... Ce livre, l'année dernière, à la fin d'une exposition, à la fin d'une conférence, on vient me voir et on me parle des énergies dont j'avais parlé. Et on me dit, il faut que vous lisiez ce livre. Alors je marque ça parce que tout ce qu'on me dit, je le marque sur un bout de papier. Et je peux pas tout lire et tout. Mais avant mon voyage, je me dis, tiens, je vais regarder ce livre. Je lis le résumé, je me dis, tiens, ça me parle bien quand même. Et ça a été vraiment le livre que j'ai énormément lu au début du voyage. Bizarrement, je l'ai lu au début. Et tout à la fin. Et ce qui a été incroyable, c'est ce que j'ai lu au début, ça me correspondait vraiment au début de ma démarche, il y a quelques années, et encore dans ce dans quoi j'étais au début du voyage. Et ce que j'ai lu à la fin, et ben c'était là où j'étais, à la fin du voyage. Donc ce livre me parle beaucoup, et si vous avez envie de comprendre, parce qu'elle parle justement des choix, elle parle... Bon, c'est pas non plus la même histoire, mais elle parle de beaucoup de choses, et notamment de réflexion par rapport à la société, des choix de vie. Ben, ce livre, il suffit d'y croire.
Et pour finir, pour mieux te connaître ou mieux découvrir ton travail, comment on fait ? Je crois que tu as un site internet. Hein.
Oui, j'ai un site internet qui s'appelle comme moi, www.cindyjanon.com.
Janon ?
J-E-A-N-O-N.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.